plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud.
Il n'y aura pas d'effondrement, Jeanne. Lâchez.
Résistance et alternative au changement climatique. On en parle dans la chronique Plus chaud que le climat sur JetFM 91.2.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Plus chaud que le climat. Pour cette rentrée 2021, ce ne sera pas une, mais bien deux émissions qui viendront régaler vos oreilles cette semaine. Cette chronique mensuelle est une émission spéciale de 45 minutes ce vendredi 29 janvier à 18h. Une heure en tout pour aborder un même sujet, l'immobilisme citoyen face au changement climatique. Au sein du mouvement climat, nos associations valorisent les solutions collectives, politiques, qui sont les seules à même de faire changer le climat. Si les solutions individuelles sont nécessaires, et si elles jouent également souvent le rôle de porte d'entrée vers le militantisme, elles sont et resteront insuffisantes face aux enjeux climatiques. Pour autant, il y a bien des freins individuels à l'engagement dans la lutte contre le changement climatique. On a souvent en tête le manque de temps dans nos vies trépidantes, les différentes formes de précarité que vivent beaucoup d'entre nous, et qui font du quotidien une survie où l'urgence climatique est supplantée par d'autres urgences vitales. On sait aussi que la méconnaissance du sujet, le manque d'accès à l'information pour savoir comment et où s'engager, sont des freins réels. Mais il y a aussi d'autres freins systémiques qui se traduisent en freins psychologiques, et qui bloquent tout passage à l'engagement dans la bataille climatique. Camille, Océane, Igor et Benjamin, membres d'Alternative à Nantes, se sont demandé quels sont donc ces freins et comment les lever. Ils et elles sont partis enquêter et livreront les résultats de leurs recherches dans l'émission du 29 janvier à 18h sur cette antenne. Avant cela, nous leur avons posé quelques questions pour qu'ils et elles nous expliquent leur démarche et l'enjeu de réfléchir à l'immobilisme citoyen pour nos mouvements climat. Bonjour Océane, Benjamin et Camille.
Bonjour.
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 Dans cette émission, vous avez choisi de parler d'immobilisme citoyen. Est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots ce qu'est l'immobilisme pour vous ?
Alors, s'il fallait donner une définition simple de l'immobilisme, on pourrait dire qu'il s'agit de ne pas remettre en cause son mode de vie par rapport à la crise écologique que nous vivons actuellement. Mais la réalité est un petit peu plus compliquée que ça à définir. Déjà, on peut préciser que l'immobilisme, ce n'est pas du non-militantisme et chacun a sa définition propre de l'engagement. Je dirais que ne pas être immobile, c'est conscientiser nos choix de vie, pour commencer, et nos choix de vie et nos choix de consommation, c'est-à-dire consommer moins, consommer durable, faire attention à nos achats, et à nos placements, à nos déplacements. Au-delà de tout greenwashing ou toute solution marketing qui paraît facile, c'est vraiment prendre conscience de ces choses-là. Et c'est également accepter d'envisager des mesures qui nous semblent a priori inconfortables par rapport à nos standards de vie actuels, mais qui pourtant sont nécessaires pour le bien commun et dont on se rend compte que c'est pas si inconfortable que ça.
Suite à vos recherches, vous avez notamment identifié deux grands types possibles d'immobilisme. Le climato-scepticisme et l'éco-anxiété. Est-ce que vous pouvez nous définir ces termes ?
Alors, le climato-scepticisme, dans sa définition classique, c'est la remise en question du changement climatique causé par l'humain. Ça, c'était encore une réalité au début des années 2000, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Donc, on a plutôt choisi de parler de climato-scepticisme ordinaire, donc c'est-à-dire tous les mécanismes psychologiques de défense qu'on met en place pour minimiser l'impact et l'immédiateté du changement climatique, ou alors, pour dénigrer l'utilité d'agir contre le changement climatique aujourd'hui. Donc voilà, et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de comportements qui oscillent entre climato-scepticisme ordinaire et immobilisme, dans le fait de justifier sa propre inaction ou de refuser la nécessité d'agir, c'est assez comparable à l'immobilisme.
Et pour parler de l'éco-anxiété, alors elle, d'une façon très opposée au climato-scepticisme, elle correspond plutôt à la souffrance psychologique qui s'installe chez quelqu'un qui est convaincu de l'urgence du changement climatique et de la responsabilité humaine qui y incombe. Et elle implique des sentiments de découragement et de peur qui sont omniprésents et qui sont liés au pessimisme du scénario écologique probable envisagé.
Merci Océane et Camille pour ces définitions. En complément de vos apports, un petit recueil sous forme de micro-trottoir au bureau sur les raisons de l'immobilisme.
Je pense qu'une partie des gens restent inactifs face au changement climatique parce qu'ils considèrent que leur initiative ou leur action personnelle et individuelle n'a pas forcément d'impact direct, immédiat et concret sur une situation globale, mondiale, collective. Donc on n'est pas sur la même échelle.
Je pense que pour beaucoup de gens, c'est déjà trop tard et du coup ils se disent perdu pour perdu, pas me faire chier à changer mes habitudes alors que c'est déjà mort, quoi.
Moi, je pense plus que ça les embête dans leur quotidien de faire, même s'ils savent ce qu'il faudrait faire, de chambouler leurs habitudes.
Alors, je pense, ce qui peut être typiquement mon exemple, que les gens se sentent pas concernés.
Dans la civilisation, c'est contraignant.
Je pense qu'ils ont pas toute la pleine mesure des conséquences que ça a sur le monde actuel.
Certains parce qu'ils n'y croient pas, et d'autres parce qu'ils ne pensent qu'à eux et pas au futur de l'espèce.
Et aussi, tout le monde se dit, les premiers coupables sont les industriels, les gros pollueurs, les entreprises, donc quand eux feront un effort, on en fera peut-être.
On n'a pas le pouvoir. Hein. C'est vraiment tout le gouvernement qui a le pouvoir et il n'y a que lui qui peut mettre des choses en place pour éviter à toutes les catastrophes du changement climatique.
Ça remet peut-être en cause, pour la plupart, leur mode de vie et l'impact immédiat dans le quotidien des Français, notamment en métropole, pour l'instant relativement peu visible.
Et toi ?
Moi ?
Ouais.
Par flemme. Non, mais j'essaie, tu vois, genre... mais ouais, c'est plus par flemme.
Oui, j'ai fait une vasectomie.
Ouais, c'est bien.
Merci Charlotte pour ce micro-trottoir au bureau et pour ton montage. Vous avez choisi cet angle de l'immobilisme qui est très large. Pourquoi ce spectre large plutôt que juste le climato-scepticisme ordinaire, par exemple ?
Alors justement, un spectre large parce que l'immobilisme représente la majorité écrasante des attitudes humaines face à la dégradation du vivant. Donc on parle de gens qui sont pas insensibles ni sceptiques sur la question du climat. Ils ont simplement pas cette problématique qui est pourtant centrale à l'esprit. Donc l'immobilisme, ça nous intéresse en ça que ça constitue une immense ressource de gens qui ne savent pas et ou qui ne réalisent pas l'ampleur de l'enjeu. Et c'est autant de gens qu'on peut potentiellement mettre à l'action grâce à une prise de conscience.
Aujourd'hui, c'est très fréquent que les gens se disent « Ah oui, la situation de la planète est très préoccupante, il faudrait faire quelque chose. » Puis ils retournent immédiatement à leur quotidien sans changer leur façon de vivre. Et ce phénomène concerne en fait la majorité des gens. C'est donc très important de comprendre d'où vient cette dissonance pour pouvoir ensuite faire changer les choses.
Vous êtes allé pour l'émission de vendredi à la rencontre de différentes personnes pour trouver des réponses à vos questions. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui nous entendront vendredi dans l'émission ?
On a interviewé Julien Devorex, qui a lancé le podcast Sismique en avril 2018. Il y interroge les représentants de différents sujets et enjeux complexes du monde humain. Il fait ça pour apporter un point de vue éclairé sur l'ensemble de notre société et de son évolution. Et son idée, c'est de montrer que les sous-systèmes qui composent le grand système qu'est notre société et dans lequel on évolue sont déjà eux-mêmes complexes et s'influencent les uns les autres. Et la question écologique est tout à fait omniprésente dans son podcast.
Et Igor, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, a interviewé trois spécialistes de l'éco-anxiété. Donc Anne Jacob, qui est psychologue clinicienne et qui accompagne notamment des personnes en souffrance à cause des changements environnementaux. Hélène Jalin, qui est étudiante en psychologie clinique et qui co-réalise une étude sur l'éco-anxiété avec Anne Jacob. Et Claire Gallet, qui est médecin généraliste et réalise une thèse sur l'expérience psychologique des changements environnementaux globaux.
Merci pour ces présentations qui me donnent envie d'écouter l'émission de vendredi.
C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
En quoi c'est important pour vous, en tant que militant, militante engagée dans la lutte contre le changement climatique, justement de travailler sur ce sujet de l'immobilisme ?
Aujourd'hui, l'urgence climatique fait consensus dans la communauté scientifique et est aussi mondialement reconnue par les politiques. Pourtant, la plupart des gens n'agissent pas en conséquence. Nous pouvons donc se demander pourquoi, et nous pensons que c'est parce qu'on ne s'adresse pas à eux dans un langage qui les touche. Quand on est militant pour le climat, on est convaincu de la nécessité de dialoguer pour faire évoluer les comportements. Seulement, quand on réfléchit à notre discours uniquement selon notre propre spectre de langage, on peut parler d'une façon qui ne résonne pas en l'autre. Donc savoir qui sont les immobiles permet de se mettre à leur place pour mieux les comprendre et ensuite pouvoir adapter notre discours.
Merci. Et pour finir, quels sont à vous personnellement vos parcours d'engagement dans le cadre du mouvement climat qui vous ont amené ici à faire cette émission ?
J'ai ressenti beaucoup d'éco-anxiété quand j'ai pris conscience des changements environnementaux il y a quelques années. Je me suis vraiment retrouvée à me dire mais pourquoi personne ne fait rien ? Et j'avais l'impression de m'agiter toute seule dans un monde complètement apathique. Et ça m'a fait beaucoup souffrir, et c'est pourquoi j'ai éprouvé le besoin de comprendre ce qui poussait à l'action ou à l'inaction, et c'est ce qui m'a amené à étudier la question du climato-scepticisme ordinaire dans le cadre de mes études. Et après, je me suis rendu compte que quand on a opéré pour soi-même un grand nombre de changements dans son mode de vie, dans sa façon d'envisager la société, au bout d'un moment, on bute sur quelque chose, on a l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin. Je pense que c'est là que l'engagement collectif intervient, parce qu'on se sent entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs, qui ont la même vision du monde que nous, et qui éprouvent les mêmes choses. Et c'est très rassurant, et ça donne beaucoup d'énergie pour aller plus loin collectivement.
Alors, moi, personnellement, dans mon quotidien, j'étais pas vraiment heureuse. J'avais souvent l'impression que rien n'était vrai, ni réellement utile. Et j'ai pris du temps pour me couper de toutes les choses qui, pour moi, m'entretenaient dans une forme d'illusion. Donc j'ai remplacé un temps immense de soirées et de fêtes par des recherches et de la réflexion, et tout ça dans une certaine solitude. On dit souvent qu'il faut pas culpabiliser les gens sur la question de l'écologie, et moi j'ai commencé à culpabiliser, et ça m'a fait du bien. J'ai commencé à regarder les choses en face, sur la façon dont je consommais et vivais, et j'ai plus eu envie de participer à ça. Et du coup ma culpabilité a diminué, du fait que je l'affronte. J'ai même commencé à avoir cette impression de faire et vivre des choses qui ont du sens, alors que c'était pas le cas quand je réfléchissais pas. Et depuis, je suis de plus en plus heureuse, alors que je côtoie des constats et des sujets très difficiles. Ça, c'est parce que je vis plus en fonction de mes désirs uniquement, je vis en fonction d'une réalité, et ça me fait me sentir plus forte et plus droite. Les désirs, ils changent tout le temps, et sont jamais pleinement satisfaits, et la réalité, elle évolue progressivement, et elle nous offre la possibilité de s'adapter à elle, pourvu qu'on veuille bien l'accueillir.
Pour ma part, j'ai pris conscience de l'ampleur et de l'urgence du problème écologique il y a 3 ans seulement. J'ai alors commencé mon militantisme dans mon entourage, et j'étais très frustré, et même triste, de voir que cela n'intéressait pas grand monde, et je me sentis assez seul. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un tas d'associations remplies de militants qui, comme moi, prennent le problème à cœur, et consacrent leur énergie, et c'est comme ça que j'ai rejoint Alternatiba à Nantes. Et ça fait vraiment du bien de s'entourer de personnes qui ont les mêmes inquiétudes, et surtout, ce qui est génial, comme le disait Océane, c'est qu'on peut unir nos forces pour avoir plus d'impact, comme par exemple avec cette chronique, qui va toucher plus de monde que ce qu'on aurait pu toucher chacun dans notre coin.
Merci à vous trois pour ces éclairages qui, on l'espère, donneront envie à notre auditoire d'écouter l'émission que vous nous avez concoctée avec le soutien d'Alexandra Jor et de la rédaction de GTFM. Nous vous donnons rendez-vous vendredi 18h pour cette émission sur l'immobilisme et le mois prochain pour notre prochaine chronique qui sera sur Amazon et les méfaits d'Amazon. Et puisqu'on est encore en janvier, nos meilleurs vœux et une bonne année à tous et toutes de la part de notre équipe toujours plus chaude que le climat en 2021.
Il n'y aura pas d'effondrement, Jeanne. Lâchez.